triste et en même temps pleine d'espérance, celle du départ de notre frère Charles pour la patrie céleste hier. Charles nous a quittés. On n'a pas encore les informations sur la date de ses obsèques, mais quand on les aura, on les communiquera. Et c'est là où, face à la mort, notre espérance prend vraiment tout son relief. Parce que humainement, face à la mort, on ne sait pas que faire. Il était avec nous, il n'est plus. Il ne sera plus parmi nous, ici-bas. Mais par contre, nous savons qu'il est avec le Seigneur. Et c'est là où la foi, qui est cette confiance que l'on a dans cette espérance de Jésus-Christ, nous dit qu'il est auprès du Seigneur, qu'il est consolé de ses peines, qu'il est consolé et guéri de toutes ses blessures, toutes ses maladies, toute sa vieillesse. Parce que l'espérance que l'on a en Jésus-Christ dépasse la mort, parce que Christ a triomphé de la mort. Ça rejoint légèrement le thème que je voulais aborder ce matin, que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avant, je vais vous poser une question. Que faut-il pour avoir son permis de conduire? Le code. Alors, pour certains, ça va réaviver des douloureux souvenirs. Pour d'autres, ça peut être une question d'actualité. Mais en tout cas, est-ce qu'il faut lire l'intégralité du code Rousseau? Est-ce qu'il faut faire des exercices de code de la route tous les jours pour pouvoir assimiler? Est-ce qu'il faut faire des leçons de conduite, avoir 300 ou 400 heures de conduite pour pouvoir bien conduire? Est-ce qu'il faut noter scrupuleusement tout ce que le professeur, tout ce que le moniteur donne comme conseil, comme remarque ou comme interdit? Ben, soit lire tout ça, ça aide. Connaître le code Rousseau par cœur, ça aide. Faire des heures et des heures et des heures de conduite, ça aide. Mais si on y regarde bien précisément, ce n'est pas ça qui donne le fameux sésame. Ce n'est pas ça qui donne le code de la route, ni le permis de conduire. Parce que si vous vous le réveillez trop tard, si vous êtes stressé, s'il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson au mauvais moment et que vous réagissez mal, eh ben, même si vous avez fait 300 heures de conduite, ce qui est énorme, normalement c'est 20 heures, ça ne vous donne pas l'examen. Parce que la seule et unique chose qui vous permet d'avoir l'examen, effectivement, c'est d'avoir le code, c'est-à-dire être présent et passer l'examen avec un minimum de fautes pour pouvoir avoir le code, et après être présent au bon moment et faire la conduite avec l'inspecteur et ne pas faire de graves fautes et faire un minimum de petites fautes, c'est ça qui nous donne le code de la route et qui nous donne le permis de conduire au final. Mais nous allons lire Galates, chapitre 2, versets 15 à 21, qui ne nous parle pas du permis de conduire, ni d'un autre permis pour conduire un bolide, mais qui nous parle du salut. Parce que la grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie du peuple de Dieu? Et pour, justement, après la mort, pouvoir avoir cette assurance d'être pardonné et d'être auprès du Seigneur. Donc nous allons lire dans Galates, chapitre 2, versets 15 à 21. Donc Galates, c'est dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui parle, ou plutôt qui écrit, puisque c'est une lettre. Voilà ce qu'il nous écrit. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. L'apôtre Paul écrivait à destination de chrétiens d'origine juive. C'est pour ça qu'il pouvait leur dire qu'ils étaient tous les deux juifs, parce qu'il était lui-même issu de la descendance d'Abraham. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. L'apôtre Paul a écrit cette lettre suite à un événement fâcheux qui s'est passé dans une église, ou plutôt dans une région, qui est la Galatie, qui est actuellement en Turquie. C'était une église qui était majoritairement constituée de païens, donc principalement des Grecs à l'époque, comme groupe ethnique, donc des gens qui étaient complètement étrangers aux dieux d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de la Torah, de la loi et des promesses. Et ces personnes ont été évangélisées par l'apôtre Paul et ils ont reçu le Christ avec un cœur grand ouvert. L'apôtre Pierre est venu les visiter à un moment et il a trouvé parmi eux des chrétiens. Voilà, il s'est senti chrétien parmi des chrétiens, comme on peut chacun se sentir ici au milieu de nous. Et il a eu des échanges, il les considérait comme des frères, comme des gens sauvés, aimés du Seigneur, pour lesquels Christ est mort. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un autre événement arrive. D'autres personnes venant de l'église de Jérusalem, donc des Juifs, sont venues également dans cette région de Galatie pour pouvoir le visiter à Antioche. Et là, l'apôtre Pierre a mal agi. Pourquoi est-ce qu'il a mal agi ? Parce qu'il a repris des réflexes de personnes qui sont dans le judaïsme et qui ne connaissent pas Christ. Ils ont considéré qu'il y avait une séparation à faire entre ceux qui étaient chrétiens et juifs, d'origine juive, et ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Parce que Dieu, dans sa sagesse, avait donné à Moïse des prescriptions et des lois qui permettaient à son peuple, au peuple d'Israël, d'avoir une séparation avec les païens. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que les mauvaises idées des uns aillent chez les autres. Il voulait préserver son peuple de la corruption, des mauvaises attitudes. Les peuples païens avaient des faux dieux. Les peuples païens sacrifiaient leurs enfants à des idoles et sacrifiaient à des statues, à des faux dieux. Ils avaient des comportements, que ce soit dans le cadre du mariage ou dans le cadre de la vie, qui étaient des abominations pour Dieu, en faisant vraiment n'importe quoi. Et Dieu voulait préserver son peuple en leur donnant la loi, qui leur permettait d'avoir des bons conseils pour vivre en communauté, vivre en famille et pour adorer Dieu. Et en même temps, il voulait les préserver de toutes les mauvaises attitudes, ce que moi j'appelle les morpions spirituels, c'est-à-dire vraiment toutes ces choses qu'on peut prendre, « Ah tiens, c'est sympa ce que tu fais, je vais faire pareil », et alors que ça mène à la ruine et au désastre. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, on a vu que, hélas, le peuple s'est laissé entraîner à agir comme les païens, et parfois même en faisant pire. Et c'est une des raisons pour laquelle on a notamment le pays d'Israël qui a été unifié par le roi David, qui a été séparé après la mort de son fils Salomon, parce que le roi Salomon avait cédé à ses femmes, qui étaient quasiment toutes d'origine étrangère, il en avait très nombreuses, il avait sacrifié à des faux dieux, et en punition, Dieu avait séparé le pays pour qu'il y ait deux pays. Et l'un des deux pays est très, au bout d'un certain temps, est parti en déportation parce qu'ils avaient abandonné Dieu, ils s'étaient fait des idoles et ils avaient vécu comme les païens. Et le pays de Juda qui restait, également au bout d'un certain temps, à force de faire des choses qui étaient des abominations aux yeux de Dieu, parce qu'ils ont suivi ce que faisaient les païens, ils ont également vu leur pays ravagé, saccagé, Jérusalem détruite, le temple de Salomon détruit, anéanti, parce que Dieu, dans sa colère, a voulu marquer que ce qui se faisait là-bas n'était pas acceptable. Et donc, il y a ce principe qui a vraiment marqué ceux qui sont revenus de déportation, qui reconstruit un État. On ne va pas faire un cours d'histoire, je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là, mais à l'époque-là, vraiment, ceux qui étaient dans le judaïsme avaient ce traumatisme qu'il fallait marcher, on va dire, dans la sainteté, ce qu'ils appelaient une sainteté rituelle, pour pouvoir éviter la colère de Dieu et notamment faire vraiment une différenciation entre ceux qui marchaient avec Dieu et ceux qui étaient d'une autre origine, qui étaient païens, qui avaient forcément des mauvais comportements auxquels il ne fallait surtout pas copier et ni même s'associer. Et donc l'apôtre Pierre, ayant reçu ces chrétiens de Jérusalem, se met à reprendre ce réflexe qui peut paraître normal au regard de la Torah, de faire une distinction entre les juifs et les non-juifs. Et du coup, les frères qui étaient chrétiens, qui avaient reçu le Seigneur, ils les considéraient comme des païens. Ils ne mangeaient plus ensemble, ils ne leur parlaient plus. Si un grec voulait se joindre à eux, il était obligé de suivre le processus pour entrer dans le judaïsme, c'est-à-dire se faire circoncire, c'est-à-dire suivre les lois, toutes les prescriptions de la Torah, c'est-à-dire sacrifier au temple, c'est-à-dire manger kasher, tout genre de choses qui, en fait, ne sont plus d'actualité pour les chrétiens. Et si la question se posait au début, en fait, Dieu est intervenu lui-même, notamment avec l'apôtre Pierre, pour lui montrer que le Seigneur, maintenant, avait décidé de faire autrement. Alors qu'il a préservé son peuple pendant un temps de l'influence des païens, maintenant, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce que Jésus a dit, c'est d'aller faire des disciples à Jérusalem, mais également en Samarie, chez les Samaritains, mais également jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut que l'Évangile soit répandu, parce que l'Évangile est d'abord pour les Juifs, la nation, enfin d'abord pour les Hébreux, ceux qui sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais également pour toutes les nations, selon ce qu'il avait déjà dit à Abraham. C'est pour nous aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont à l'autre bout du monde, aussi bien en Europe, en France, mais également en Afrique, en Asie, en Amérique. Vraiment, tout le monde a cette possibilité de rentrer dans le peuple de Dieu. Et donc, l'apôtre Paul voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'apôtre Pierre, qui avait eu une vision de la part d'un ange pour lui montrer qu'il peut aller chez un païen, qu'il peut partager l'évangile avec un païen, il a eu une vision vraiment insistante du Seigneur. Il a été guidé par le Saint-Esprit pour annoncer à un soldat romain, Corneille, que le message de l'évangile était pour lui. Et Corneille, qui avait un cœur grand ouvert vers Dieu, a accepté le Seigneur et a été sauvé, lui et sa famille. C'est ce même Pierre qui aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui viennent de Jérusalem, commence à faire une différence. Et ça, l'apôtre Paul voit que ça ne marche pas. D'autant qu'après cet épisode, l'église de Jérusalem, où il y avait les principaux chrétiens, les principales colonnes de l'église, avait statué, avait dit, oui, effectivement, le Seigneur veut que l'évangile soit propagé aux nations, aux païens, aux gens qui ne sont pas ni hébreux ni juifs. Et il avait été reconnu, on voit ça dans Actes chapitre 15, qu'on ne demanderait pas aux chrétiens d'origine païenne de devenir des juifs, de rentrer dans le judaïsme et d'appliquer toutes les lois cérémonielles de la Torah. Cela avait été statué, où il avait même été dit, et notamment par l'apôtre Pierre, que le Saint-Esprit, nous avons reconnu que le Saint-Esprit nous a montré qu'eux. Donc il y avait vraiment quelque chose qui est au-delà de du simple raisonnement humain, au-delà d'un simple décret d'une église qui a une influence sur d'autres églises, on avait reconnu que le Seigneur voulait que l'évangile soit prêché à tout le monde. Et Pierre, maintenant, chez les Galates, se trouve à avoir une attitude hypocrite. Lui qui avait eu ses révélations du Seigneur, lui qui connaissait quelle était la volonté de Dieu, se mettait à faire comme si tout cela n'avait pas eu lieu. Il est auprès de gens qui n'ont pas compris cela, qui veulent rester entre eux, avec ce privilège qu'avait la nation d'Israël d'avoir cette relation particulière avec Dieu, mais qui n'est plus d'actualité, parce que maintenant, Dieu veut se faire connaître à tout le monde. Et donc, l'apôtre Paul reprend et pose déjà une première chose, il montre un chemin qui n'est pas le chemin du salut, qui est le chemin que j'appellerais de la to-do list, auquel peut être confronté non seulement quelqu'un qui vient d'un arrière-plan juif où il y a beaucoup de cérémonies, beaucoup de choses à faire pour pouvoir satisfaire les exigences de la Torah. Il y avait la cacheroute qui est toujours d'actualité chez nos amis juifs, mais il y avait la circoncision, il y avait plein de choses qu'on devait faire quand on était un juif pieux et qu'on voulait honorer Dieu. Et toutes ces choses-là, en fait, n'ont plus lieu. Mais en tant que chrétien, sans forcément chercher à devenir juif, on peut avoir l'habitude de vouloir faire plein de choses pour plaire à Dieu. Par exemple, est-ce que c'est parce que je vais me faire baptiser dans une église que je vais être sauvé? Est-ce que c'est parce que je vais être baptisé dans le Jourdain, en Israël, que je vais être sauvé? Est-ce que c'est parce que je vais tous les dimanches à l'église et que je manque aucun culte et que je prends la Sainte-Seine à chaque fois que je peux? Est-ce que c'est ça qui fait que je suis sauvé? Est-ce que c'est parce que si jamais je suis une femme et que j'ai lu dans la Bible qu'il est bien pour une femme de porter un voile? Est-ce que c'est parce que je vais porter un voile que je vais être sauvée? Toutes ces questions-là, on peut se les poser. Et il y en a qui, ayant une mauvaise compréhension de l'Évangile, peuvent s'astreindre à plein de choses pensant qu'il faut absolument que je fasse ça et ça et ça, que je fasse des nuits blanches à prier, que je fasse des jeûnes. C'est comme ça que je vais avoir la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que je vais rentrer dans l'amour de Dieu. Alors qu'en fait, c'est absolument pas ça. Jésus, de son temps, était confronté à des hommes religieux qui avaient vraiment une attention particulière à faire tout ce qu'il fallait pour plaire à Dieu en fonction de toute une liste de piété. Et son constat était vraiment cinglant. Et il faut vraiment en prendre conscience. On le trouve dans Matthieu, au chapitre 15, versets 7 à 9. Voilà ce que dit Jésus à propos des personnes religieuses. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » L'apôtre Paul est formel. Il rappelle que devant Dieu, personne n'est juste. Et ça, c'est le constat que l'on voit par le roi David dans le psaume 14 au verset 1 à 3. C'est également le constat que fait l'Ecclésiaste dans le livre qui porte son nom, au chapitre 7 et au verset 20. C'est également le constat que Paul réitère dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 10. Et c'est également le constat que Dieu lui-même a exprimé au travers une prophétie, au travers le prophète Jérémie, au chapitre 17 et au verset 9. Il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché. Le cœur de l'homme est tortueux et tourné vers le mal. Même le grand prophète Ésaïe, qui à un moment a eu une vision de Dieu dans son temple, du trône de Dieu, a réalisé à quel point lui, qui pourtant était sincère et voulait avoir une vie agréable à Dieu, il a réalisé que ses propres péchés ne lui permettaient pas d'accéder à la présence de Dieu et il a eu peur de mourir parce qu'il a vu Dieu dans son trône, sur son trône. À un tel point que le Seigneur a demandé à des anges d'intervenir pour pouvoir le rassurer et lui montrer que le Seigneur prenait en charge son péché. L'Évangile est clair. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire par lui-même pour gagner le ciel. Nos bonnes actions même sont souillées devant Dieu, qu'on en ait conscience ou non. Personne ne sera sauvé à cause de ses bonnes actions ou à cause de ses sacrifices qu'il fait à Dieu. Voilà la clé du salut évoquée par Paul. Le salut provient de la justification, du fait d'être rendu juste. Et comment est-ce qu'on est rendu juste? Il n'y a qu'un seul moyen qui nous a été donné, c'est au travers le sacrifice de Jésus à la croix. Il paie de sa vie le prix pour le pardon de mon impureté devant Dieu. Pour que tout ce que Dieu considère comme péché, comme mal, puisse être pardonné et effacé. De quoi parlons-nous concrètement? Nous parlons des conséquences spirituelles et éternelles qui nous prive non seulement de la présence de Dieu, mais qui amène tout homme qui ne passe pas par la croix à ce que la Bible appelle l'étang de feu. C'est-à-dire après la mort, un lieu où seront tous ceux qui n'auront pas voulu que Dieu règne sur eux. Et qu'est-ce qui nous y amène? Ce que notre nature pécheresse nous incline à faire. Le vol, le mensonge, la tricherie, l'égoïsme, l'idolâtrie, que ce soit vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'un objet, vis-à-vis d'une idée, tout ce qui prend la place de Dieu, mes désobéissances, ma dépendance à l'argent ou à d'autres choses, mon orgueil m'a placé, mes ragots, mes désirs, mes mauvaises pensées, tout ce que Dieu déteste et me rend abominable devant lui. Aucune action humaine ne peut les effacer, aucun sacrifice humain ne peut les racheter. Toutes ces choses-là sont une puanteur devant Dieu qui fait qu'il ne peut pas m'accepter dans sa présence. Et la solution, c'est vraiment pour pouvoir avoir un rachat, pour pouvoir avoir un pardon, pour pouvoir avoir une justification, parce que je ne suis pas capable de le faire, comme aucun de nous n'est capable de le faire. Le Seigneur a dû intervenir. Jésus a dû descendre de sa condition de Dieu, prendre la condition d'un homme, vivre la vie d'un homme comme un homme vit, sans tricher. Il a souffert, il a mangé, il a bu, il a pleuré, il a été triste, il a été rempli de joie. Il a dû souffrir, il a dû se faire pécher et aller jusqu'à la croix et mourir à la croix pour que nous, nous puissions être pardonnés. Il a payé la juste rétribution de nos fautes, la mort. C'est une opportunité à un temps limité qui a un prix exorbitant et qui nous est offert gratuitement. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Il faut, dans Jean 3, il faut que je sois élevé entre ciel et terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire chacun d'entre nous ici présents, c'est-à-dire les gens qu'on va croiser quand on va rentrer chez nous, c'est-à-dire les gens qui sont venus avant nous, nos pères, les gens qui viendront après nous, quiconque croit en lui ne périsse point, n'ait pas à subir ce châtiment de la mort éternelle, de cet étang de feu, mais qu'il ait la vie éternelle. Aucun effort de notre part n'est suffisant pour purifier notre âme. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle. Seule la foi en Jésus-Christ rend juste. Aucun de nos efforts peut nous donner une respectabilité pour que Dieu puisse dire « Ah, oh, c'est bon, toi, t'es quand même bien, viens. C'est pas grave. » Non, parce que Dieu est juste, il est saint et il ne supporte pas la présence du mal. Galates 2, verset 16 nous dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La foi est un terme qui a deux sens en grec, la confiance et la fidélité. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une espérance qui dépasse simplement notre compréhension des choses. Aucune to-do list de choses à faire ne pourra nous rendre saints devant Dieu. Le salut, il commence par la repentance. C'est le fait de vouloir à un moment s'examiner selon les critères que Dieu nous a donnés au travers de la Bible pour savoir où en est ma vie vis-à-vis du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je projette de faire? De penser, de dire, ou que je n'ai pas fait, qui correspond à ce que Dieu n'apprécie pas, n'aime pas, ce qui rentre dans ce qu'il appelle la catégorie le péché, les choses qui nous excluent de sa présence. Et la repentance, c'est savoir ce cœur sincère, de vouloir vraiment faire cet état des lieux et après accepter le jugement et le regard de Dieu sur ma vie. Ok Seigneur, j'ai fait ça, je ne vais pas me justifier, toi tu dis que c'est mal, j'accepte que tu dises que c'est mal et le regretter. Je te demande pardon, confesser ses péchés au Seigneur avec un réel regret de changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut les regretter sincèrement. Il y a des choses qu'on peut changer. Si j'ai volé, je peux redonner ce que j'ai volé. Si j'ai menti, je peux dire la vérité. Voilà ce que le Seigneur attend d'une disposition de cœur qui se repent. Et le salut n'est pas la conséquence de nos mérites, mais, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de prendre vraiment la mesure de ce sacrifice qui nous a été donné à la croix, de le croire et de vouloir faire ce qui est agréable à Dieu. Après, l'apôtre Paul nous met en garde contre une deuxième erreur, un chemin que certains peuvent prendre, pensant qu'il mène au salut, mais en ayant une mauvaise compréhension de la grâce. C'est ce que j'appelle, moi, la théologie du paillasson. Elle consiste à quoi ? Elle consiste à se dire, voilà, Dieu est bon. Par mes efforts, ce qui est juste, je ne peux pas mériter le salut. Mais comme Dieu est bon et qu'il est plein d'amour et que Jésus est mort à la croix pour le pardon des péchés, ben, je peux faire ce que je veux. Parce que je suis libre en Christ et je peux vraiment être juste guidé par ma conscience et mes désirs. Voilà, si je pêche par acquis de conscience, je vais dire au Seigneur pardon, et puis je vais dire, c'est pas grave, de manière, il est mort à la croix, il donne le pardon des péchés, je peux recommencer, c'est pas un problème. Paul a été transgresseur de la loi, comme on l'a vu, quand il a compris ce qui était vraiment l'évangile. Il n'est pas resté dans tout ce que demandait la loi qui a été donnée à Moïse. Il a été au-delà. Il mangeait avec des païens, il ne mangeait pas forcément kasher, il n'allait pas forcément faire tous les pèlerinages quand il était nécessaire pour aller sur Jérusalem, mais malgré tout, il ne faisait pas n'importe quoi. Cette théologie du paillasson, c'est quelque part un rejet non seulement de toute loi, la loi rituelle, mais également de toute loi morale, et ça conduit à un terme qu'on a, un peu barbare qu'on appelle l'antinomisme, c'est-à-dire être sans loi. C'est le rejet de toute discipline, de toute influence morale de la Bible. Dieu est bon, il m'aime, je le sais, je peux le dire, mais est-ce qu'on doit être libre vis-à-vis de la pensée du Seigneur? Est-ce qu'on doit vivre notre vie comme on veut ou comme le Seigneur veut? Il y a un danger d'être comme Adam et Ève, de se dire, ben voilà, maintenant, ok, je suis pardonné, et puis maintenant, ben, je suis mon propre maître, je sais que Christ a tout fait pour que je sois pardonné, et puis je vis n'importe comment. Mais vous voyez l'abîme qu'il y a entre cette mentalité et le chemin étroit du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il nous a sauvés. Il a donné son fils à la croix par grâce, mais est-ce que la grâce, c'est un chèque en blanc pour qu'on puisse faire tout ce que l'on veut et puis simplement en disant pardon Seigneur à un moment ou à un autre, être pardonné? En fait, il ne faut pas mécomprendre ce qu'est la croix. La croix n'est pas un geste technique. Ce n'est pas une machine à laver qui lave nos âmes à chaque fois qu'on fait une prière dans un sens particulier ou qu'on va à un endroit. La croix, c'est avant tout un acte de miséricorde. Un acte de rachat de quelqu'un que Dieu aime pour quelque chose qui est abominable, qui a été fait. La croix, ce n'est pas une permission de péché, c'est simplement l'opportunité de se réconcilier avec Dieu en abandonnant ce qui lui déplaît. La croix n'est pas un favoritisme. On pourrait se dire, ben voilà. J'appartiens au peuple de Dieu, je suis chrétien, je connais le Créateur du ciel et de la terre, du coup j'ai un passe-droit, je peux faire ce que je veux. Non. Pourquoi? Parce que la croix guérit du péché. Elle donne la force de marcher d'une manière digne du Seigneur. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur veut changer nos mentalités pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Et quand on réalise l'amour que Dieu nous a manifesté en donnant son Fils unique à la croix, la seule bonne réponse à cet amour, c'est chercher à lui plaire et chercher à marcher dans ses voies. On ne doit pas faire plein d'actes religieux pour être bien. Non, c'est ce que le Seigneur il attend, c'est un acte d'amour, une reconnaissance du sacrifice qu'il a fait. Qui d'entre vous a un enfant et donnerait son fils pour quelqu'un qui le maudit, qui l'ignore et qui le trahit? C'est ce qu'a fait Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous. Son amour était si grand que pour qu'on puisse être pardonné, il a fait ce sacrifice ultime. Et ce plan-là, on le voit dès l'Ancien Testament. On le voit notamment chez le prophète Ézéchiel. Voilà ce qu'il dit au chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour résumer, Paul nous met en garde contre la mentalité de croire que les rituels nous sauvent et nous permettent de mériter notre salut et de gagner par nous-mêmes notre âme. Il nous conduit à considérer l'importance et la juste valeur du don du Fils de Dieu donné à la croix, et que la réponse juste que l'on doit faire, c'est un don confiant de notre vie au Seigneur. D'où cette dernière question. Puisque ce ne sont pas nos efforts qui nous donnent le salut, mais la foi dans la promesse d'une grâce immérité donnée par Dieu, saurons-nous mourir à nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit nous purifier pour vivre l'Évangile? Que le Seigneur vous bénisse.